faire entre le combattant et l'homme d'adoration et de prière. Et je crois que c'est comme si on a avancé pendant quelques années, et là on est en train de buter sur plusieurs points. Il y a des points financiers, il y a des points au niveau des travaux, on voit que ça coince un peu. Et la parole qui était très claire au niveau d'Emmanuela, mais qui je pense est pour nous tous, c'est Dieu qui disait, je veux fortifier ma maison de prière. Et donc, elle a fait ce geste d'obéir, de lâcher des activités pour pouvoir se consacrer à cette mise en priorité de la maison de prière. Et ça, c'est Josué. Il restait dans la tente, même une fois Moïse parti. Il y a une corrélation entre ça et le fait qu'il a été choisi pour être un meneur d'hommes. Il y a une corrélation vraiment. C'est pas un hasard. Dieu était-il à la recherche d'un meneur qui persévérerait dans sa présence afin de pouvoir conduire le peuple à le rechercher avec la même ardeur? Alors voyez, le mandat qu'il a reçu de conduire tout un peuple, eh bien, je pense que c'est pas opposé, bien loin de là, au premier commandement que Dieu lui donna, de ne pas laisser la parole s'éloigner d'où ça, de sa bouche. Alors ça, c'est intéressant aussi. C'est intéressant parce que nous, on dit, bon, moi, j'obéis à la parole, elle est dans mon cœur. C'est très bien. Mais Dieu dit, le problème, c'est pas qu'elle soit dans ton cœur, c'est qu'elle doit être dans ta bouche d'abord. Et on développera ça. Mais la prière dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau et dans toute la tradition de l'Église, c'est une prière qui parle la parole. C'est pas une prière simplement où on est là à dire nos sentiments pour Dieu. Ça a sa place. Mais la prière des hommes et des femmes de Dieu, ils prient la Torah, la parole de Dieu. Jésus, sur la croix, a prié les psaumes. Il a cité les psaumes. Lui, il était fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Il pouvait très bien inventer des prières. Eh bien non, il a prié la parole. Impressionnant ça. Et toute la tradition de l'Église nous parle de cette notion de parole dans notre bouche. Si on va pas faire de sondage, mais quelle est la dernière fois où à voix haute tu as prononcé et prié la parole? Et on est dans une culture qui ne valorise pas ça. Et pourtant, Josué, on va le voir, le commandement, ça a été que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Et je rappelle ce grand principe biblique qui est connu dans toutes les traditions orales et qu'on connaît un peu moins, c'est que la porte d'entrée du cœur, c'est la bouche. La Bible dit que ta parole ne s'éloigne pas de ta bouche, qu'elle soit dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est ce qu'on appelle la méditation. Lorsque Dieu a dit à Josué, « Médite ma parole », ça veut dire tu la prononces, tu la répètes, tu la dis. Et de façon à ce qu'elle rentre dans ton cœur. Et quand elle rentre dans ton cœur par la bouche, eh bien, tout ton être est influencé. Parce que le cœur est le centre de notre personne. Donc, il n'y a pas d'autre entrée de la parole que la bouche. C'est impressionnant, ça. C'est-à-dire que quand tu lis en silence, ça n'entre pas dans le cœur. La parole, elle se dit à voix haute. Elle se prie à voix haute. Et c'est la seule façon de rentrer dans le cœur. Et d'ailleurs la parole, ça veut dire, c'est fait pour être appris même par cœur. Alors nous, ça nous fait drôle de dire ça, mais c'est pourtant la réalité. Il n'y a pas de changement de mentalité possible, en tout cas toute l'histoire de l'Église nous le montre, sans qu'il y ait une mémorisation des Écritures. Et je rappelle que les Écritures elles-mêmes, leur forme, leur rythme, la place des versets, etc., tout est fait pour qu'elles soient apprises par cœur. Et nous avons ça dans les psaumes, les allitérations, les rythmes qui reviennent. Nous avons ça dans les psaumes alphabétiques, hein, nous avons ça dans l'évangile de Marc. Je rappelle que l'évangile de Marc, avant tout jeune baptisé, la première église, eh bien, vous deviez apprendre par cœur. Et les évangiles, comment ils nous sont venus? Ce n'est pas des gens qui ont écrit et c'est venu comme ça. C'est des gens qui avaient appris par cœur. Et alors, les disciples, ils apprenaient par cœur. Et c'est comme ça que l'évangile est arrivé à voix écrite. C'est la tradition orale. La puissance de la première église Un des aspects, c'est la connaissance de la parole et la mémorisation dans le cœur. Et ça, c'est très fort. Et aujourd'hui, je pense que la notion de prière, et ce que Dieu a dit à Josué, la notion de prière, c'est cette prière avec la parole. Quelques autres exemples dans la Bible, David, le berger roi, il criait au Seigneur quand ça, le matin, à midi et le soir. Alors, plusieurs des choses que je vous dis là, c'était David Lee, je crois, Angela, qui nous ont offert un livre qui est super, qui s'appelle « Prier avec la Bible ». Et ça fait vraiment un écho dans nos cœurs, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà partagé ici. Mais je crois que c'est pas étonnant que la maison de prière de Kansas City, ce livre ait été écrit et reçu par des gens qui pratiquent cette notion de maison de prière. Donc voilà, Campbell en particulier, Stacy Campbell. Et donc, David Berger Roy, il disait, « Moi, je crie à Dieu, l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche, me rendra la paix, car ils sont plus nombreux que moi. » Donc, vous voyez cette notion de prier, de méditer pendant les veilles de la nuit. Hein, psaume 63, 6. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de ma nuit. » Donc, la méditation biblique, c'est la prononciation de la parole. C'est ça, la méditation. Ce n'est pas le vide qu'on fait. Hein. Ce n'est pas les religions orientales. Tu fais le vide. Hein. Ce n'est pas ça. La méditation biblique, tu fais le plein. Tu ne médites jamais sur rien. D'accord ? Tu fais le plein. Tu médites à partir d'une écriture. Tu médites à partir d'une parole. Et tu restes sur cette parole. C'est ça l'idée de la méditation biblique. Alors, nous avons Daniel, l'exilé, qui priait 3 fois par jour. Et c'était tellement important pour lui que quand il y a eu le décret qui disait ceux qui prient, quelqu'un d'autre que le roi, là, il risque la vie. Eh bien, il a préféré risquer sa vie que d'arrêter de prier 3 fois par jour. Impressionnant quand même cette histoire. On pourrait dire c'est religieux, ça, c'est des heures. Moi, je prie quand j'ai envie. Vous voyez, on pourrait dire ça. Moi, je prie quand j'ai envie. Parfois, je n'ai pas envie, alors je ne prie pas. Mais parfois, j'ai envie, alors je prie. Parfois, je suis stimulé. Mais là, on a une tradition biblique qui prie, comme ça, 3 fois par jour. Impressionnant. Et vous avez aussi, à l'évidence, la foi des prophètes. Les prophètes, eh bien, ça découle, cette foi, d'une solide vie de prière. Et par leur prière, Dieu touchait la terre. Et on voit ça dans toute la tradition prophétique. Moi, ce qui m'étonne le plus, franchement, quand on s'arrête, arrêtons-nous à cet exemple. C'est l'exemple de Jésus. S'il y a bien un homme qui, a priori, n'aurait pas besoin de prier, c'est bien Jésus. Hein, on se dit, mais mince, il est fils de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre hein, quand il est ressuscité, mais quand même. Fils de Dieu, donc il peut se permettre de ne pas prier. Eh bien, c'est tout le contraire. Et ça, c'est un des grands mystères de la Bible. Et si Jésus, fils de Dieu, a montré l'exemple de la prière, alors nous, à combien plus forte raison? C'est ça. Et Jésus, 18:1 par exemple, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc il a insisté sur la notion de prière. C'est pour ça que la vision de la maison de prière, c'est pas échapper à la réalité, mais nous croyons que toute la réalité, la vraie réalité de Dieu, de son règne, de son royaume qui veut s'établir sur la terre, est soutenue par la prière. Et la prière amène la réalité de Dieu sur la terre. Et je crois qu'il y a, nous sommes allés à plusieurs d'entre nous au bout de nos forces, de nos capacités, de notre bonne volonté, et de dire, mes amis, je vous attends. Je vous attends là où vous ne pouvez plus. Quand on a chanté le chant qui disait, quand je suis faible, c'est ça, Seigneur, toi, tu es fort. Eh bien, c'est ça, la prière. Alors, pourquoi Jésus, le Dieu homme, devait-il tellement prier? Ça, c'est vraiment étonnant. Lui, parfaitement juste. Lui qui a obéi à toute la loi. Impressionnant. Luc 3, 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Il avait obéi à toute la loi. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Impressionnant. Lui parfaitement juste. Est-ce que le ciel n'était pas ouvert tout le temps sur sa vie? Bien sûr, mais quand la prière de Jésus ouvrait le ciel. Donc nous, on a beaucoup enseigné sur le message de la justice. Nous sommes justifiés. Le ciel est ouvert sur nous à cause de la justice de Dieu. Est-ce que ça nous évite la prière? Non. Jésus, parfaitement juste, quand il prie, le ciel s'ouvre. Et non seulement ça, mais vous connaissez le texte après le baptême, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il le conduit dans le désert. C'est impressionnant. En fait, les déserts sont des zones, c'est pas toujours le diable qui nous conduit dans le désert. Parfois on dit c'est l'épreuve, c'est le diable, c'est l'ennemi. Mais Dieu conduit dans le désert son épouse et ses enfants. C'est parfois Dieu qui conduit dans le désert. Et le désert, ça veut vraiment dire on a l'impression de perdre nos repères. Il fait chaud, il n'y a plus assez de provisions, on va mourir. Et ces déserts-là sont des déserts de Dieu, où le Saint-Esprit nous conduit. Et il a conduit Jésus, et là il y a eu ces tentations. Et les tentations, c'est parfois les tentations de lâcher prise. C'est les tentations de baisser les bras. C'est les tentations de voir les choses qui la tempêtent plus que la réalité de Dieu. Dans l'image là de cet arbre très solide, très beau là, que Bénédicte nous a fait, on voit cette notion de solidité, d'enracinement, et en même temps on voit cette floraison extraordinaire. Et puis ce gars qui est couché là. La Bible me dit dans Hébreu, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et c'est de cette position de repos qui ne s'acquiert que dans la prière, dans la présence de Dieu, et bien que l'action, la véritable action, elle porte son fruit dans le repos. Nous ne travaillons pas pour nous reposer, nous ne travaillons pas pour plaire à Dieu, mais c'est parce que nous plaisons à Dieu, parce que nous savons que nous sommes son enfant, que nous sommes héritiers des promesses du ciel et de la terre. C'est pour ça que nous bougeons, mais d'une position qui est une position de repos. Alors voilà, il est dit dans Luc 5, Jésus se retirait dans les déserts et priait. Et priait. Il a prié pour lui-même, il a prié pour les autres, il a prié avant de prendre des décisions capitales, comme l'appel des disciples, hein, il a prié la nuit avant. Il a prié pour que les disciples continuent à le suivre, parce qu'au bout d'un moment, les disciples, ils en avaient marre parfois, hein, régulièrement. Et quand l'enseignement devenait un peu trop dur, on avait la tentation d'arrêter. Et vous savez, l'important, c'est pas comment on commence, c'est comment on finit. Moi, je me rappelle quand nous étions tous ici dans cette pièce et que nous étions locataires à l'époque, et ce prophète est venu, il a dit, je vous ai appelé ici. Vous devez acquérir ce bâtiment. C'est ici votre place. Ça correspond à ce que Dieu nous avait dit dans notre cœur. Et ensuite, les choses bougent, les choses sont ébranlées, mais nous sommes à la place que Dieu nous a donnée. Et nous sommes en processus. Et je crois que cette maison de prière, c'est une façon de manifester que notre confiance est en Dieu et que ce n'est pas par nos forces qu'on arrivera à tout ce que Dieu a pour nous. Alors Jésus, il a prié tôt le matin, tard le soir, parfois la nuit. Pour Jésus, la vie au temple, c'était une vie de prière. Rappelez-vous, ma maison sera appelée une maison de prière en premier, une maison de prière. Jésus a prié, c'est étonnant, mais pour nous occidentaux, surtout alsaciens, là, c'est étonnant parce qu'il a prié avec des grands cris. Est-ce que Jésus était dans la crainte? Il a prié avec des grands cris. Il a prié avec des larmes. Quand vous allez dans les pays comme le Mexique, ceux qui ont été au Mexique, quand vous voyez les tripes qui sont libérées dans la prière, vous dites c'est culturel. Non, c'est pas une notion de culture. C'est vraiment une question qu'il y a. Dieu veut qu'on soit entier dans notre adoration et notre prière. Et il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Alors ça, c'est un mot, la piété. C'est un mot, moi je me rappelle, c'est un mot très négatif pour moi au départ. Je disais, c'est religieux, la piété. C'est religieux, c'est pas dans l'esprit, la piété. Mais la piété, c'est biblique. Jésus, à cause de sa piété, c'est quand même impressionnant. C'est quoi la piété? La piété, si vous voulez, c'est, euh, rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, mais en particulier par des pratiques. Des pratiques. Alors, des pratiques, mais Dieu voit notre cœur, il n'y a pas besoin de pratiques. Eh bien non, la piété, c'est des pratiques. Et le mot comprend la notion de manifestation extérieure de notre foi. Alors bien sûr, il y a des gens, s'il n'y a plus rien à l'intérieur, s'il n'y a que l'extérieur, on est bien d'accord, il n'y a plus rien. Mais quand même, Dieu accorde l'importance aux manifestations extérieures. Et quand on voit la notion, par exemple, de Corneille, un non-chrétien, d'accord, un craignant Dieu, donc il est Corneille, centurion romain, Dieu a dit... J'ai vu tes aumônes. Il faisait des aumônes, il faisait des dons. Et pourtant, il n'était pas né de nouveau. Et Dieu a dit, j'ai vu tes dons. C'est pour ça que je viens. J'ai vu tes prières. Quel type de prière faisait-il sans être né de nouveau? C'est un peu bizarre. Mais Dieu a vu sa piété. Impressionnant. Et c'est pour ça que Dieu est venu. Bien sûr qu'au travers de tout ça, Dieu voit le cœur. Et voyez, Jésus, qui aurait pu, on peut imaginer se passer de la prière, a montré que non. Impressionnant. Comprenait-il que le message et l'autorité de qui que ce soit, même lui, même Jésus, venaient au travers de la prière et du contact avec son Père, dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus croyait-il réellement qui ne pouvait rien faire de lui-même, c'est Jean chapitre 8. Jésus, en tant qu'homme, il a laissé sa divinité. Et donc, sur cette terre, il était parfaitement homme. Les miracles qu'il a faits, ce n'est pas en tant que fils de Dieu, c'est en tant qu'homme au contact avec son Père. C'est pour ça qu'il a dit, vous pourrez faire la même chose. Donc, la même chose, c'est la prière. Jésus croyait réellement, en tant qu'homme, qu'il ne pouvait rien faire sans son Père. Impressionnant. Sans la prière. Jésus n'a laissé son œuvre sur terre le distraire de la source, la puissance nécessaire à l'accomplissement de son mandat. Alors voyez, l'équation reste la même. C'est impressionnant. Plus de prière signifie plus de bénédiction. Le fondement, c'est la justice. Je ne prie pas pour plaire à Dieu. D'accord ? Je suis justifié, que je prie ou pas. Ça, c'est une question de foi. Mais sur cette base de la justice, Dieu m'appelle à prier. Et ça, ça fait l'histoire. Et ça change l'histoire. Et voilà, donc la prière, ce n'est pas seulement une bonne idée, rappelez-vous. Ce n'est pas une bonne idée seulement. C'est un commandement. Ah, mince alors. Ah, zut alors. Hein. Mince. Un commandement. On n'aime pas trop les commandements, quoi. On aime bien. Et c'est là, moi, j'aime bien cette image, parce que ça parle de l'affection de Dieu. Mais la croix qui est là, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait la remettre un peu au centre, parce que ça, ce n'est pas possible s'il n'y a pas ça. Donc il va falloir voir comment on va s'occuper de la déco là, mais voilà. Et puis une chose très importante aussi qu'on a oubliée, mais toute la tradition de l'Église et même les disciples le montrent, c'est que la prière en fait, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est drôle cette histoire. Nous on est dans le spontané, mais la prière s'apprend. Et même les disciples ont dû apprendre à prier. Un Seigneur enseigne-nous à prier. Et pourtant, ils savaient, c'était la tradition juive, ils savaient prier, quoi. Depuis petit, depuis leur bar mitzvah, ils avaient appris les prières, les Shema Israël, etc., les par cœur. Et pourtant, ils arrivent vers Jésus, disent Seigneur, apprends-nous à prier. Et pourtant, ils n'étaient pas novices. Un des disciples, André, était un disciple de Jean-Baptiste. Et disciple de Jean-Baptiste, comme homme de prière, je peux vous assurer, il n'y a pas mieux à l'époque. Et pourtant, il disait Seigneur, apprends-moi à prier. Un des grands obstacles que nous avons, c'est celui-là. Je vous cite et vous allez peut-être vous reconnaître. On se reconnaît de temps en temps là-dedans. Écoutez ça. Le type de raisonnement que nous avons parfois. Alors, Dieu est toute sagesse. Bien, bon départ. Hein. Toute puissance. Oh, good. Il connaît toutes choses. Bien. Il sait quand son intervention est nécessaire. Bien. Pourquoi donc voudrait-il que j'aille dans ma chambre pour lui faire part de mes doléances et réclamer son intervention? Ça, c'est pas bien. Mais bon. Il connaît déjà le problème mieux que moi et son désir de le régler est plus fort que le mien. Alors, ça va changer quoi? Ma prière. Vous voyez? C'est subtil, ça. Hein, Dieu est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Toutes choses lui appartiennent. Le pouvoir de la vie, le pouvoir de la mort. Donc, on pourrait même dire... Inch'Allah. Hein. Et c'est le fatalisme musulman Voilà. Quoi que je fasse, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Et Dieu n'est pas un Dieu qui marche comme ça. C'est ça qui est impressionnant. Il a fait de nous des partenaires. Et notre prière collective, individuelle, change les choses. Change les circonstances. Alors, attention à ce raisonnement. C'est une hérésie. Ce raisonnement est une hérésie. La Bible dit que la prière a une grande efficacité. Alors, il y a des gens qui disent, mais arrête de prier, il faut être efficace quand même. Il ne faut pas perdre son temps comme ça avec ces charismatiques là qui passent leur journée à prier alors qu'il y a du boulot quand même. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et ça, attention, attention. La prière est une grande efficacité. Alors, bien sûr, il n'y a pas que la prière. S'il n'y a pas une action avec, bien sûr, il n'y a pas grand-chose. Je donne le témoignage que je tire de ce livre. Et c'est un témoignage qui, fait drôle. J'aimerais vous citer le passage. Donc, il s'agit d'un couple pastoral qui avait une église florissante qui était visitée par le réveil. Je lis. « Le Seigneur a agi puissamment au milieu de nous par un grand réveil. En une seule nuit, il fit naître un esprit de prophétie. Plusieurs commencèrent à avoir des visions conduites par l'esprit. » Sur une période de 3 mois, au moins 70 personnes, n'ayant aucune conscience de ces choses, commencèrent à prophétiser. Les premières paroles que Dieu donna dans la prophétie furent « Priez, priez, priez ». Je vous ai appelé à être des hommes et des femmes de prière. Durant ce réveil, Dieu nous appela à une vie de prière. D'une fois à l'autre, il insistait sur le fait que nous devions prier. Un soir, lors d'une réunion particulièrement puissante, l'esprit de prophétie se déversa soudainement. Dans toute l'église, les gens étaient émerveillés par ce que Dieu faisait. Des gens prophétisaient ici et là. La présence de Dieu traversa la pièce, tel un vent puissant. Immédiatement, ma femme commença à trembler, à être secouée. Soudainement, comme Ézéchiel qui fut saisi par les cheveux, elle fut propulsée dans ma direction comme une poupée de chiffon, se retrouva debout en face de moi. Et Stacy commença à bouger devant moi avec des mouvements saccadés, des mains et des pieds. Puis tel un volcan qui explose, elle éleva la voix et elle dit « Wesley, Wesley », donc c'est le nom de Marie. « Wesley, Wesley, tu sais ce qui arrive, n'est-ce pas ?» Ma femme se tenait devant moi, déclarant la parole du Seigneur. Dieu me parlait, je savais. « Je t'ai appelé et tu n'es pas venu. » J'ai demandé à te voir et tu ne t'es pas présenté. La parole continua avec une sobriété qui imposa silence à l'assemblée. Puis un autre pasteur fut soudainement touché par le Saint-Esprit, sautant sur ses pieds, courut à travers la salle en hurlant. « Wesley, si tu ne pries pas, ton ministère te sera enlevé comme ces feuilles de papier de ta main, chiffonnées et jetées par terre. » Après cette déclaration, il saisit les feuilles qui était sur mes genoux, et comme acte prophétique, les jeta sur le sol et les piétina. Je compris que c'était une remontrance grave de la part du Seigneur. La crainte du Seigneur commença à saisir mon cœur. Et cette nuit-là, je décidai de changer mes voies et de répondre à l'appel de la prière. Et ça, c'est le début d'une quête de la prière, de la vie de prière. C'était, je ne pense pas me tromper en disant que ça fait partie des fondements de la maison de prière. Voyez, des maisons de prière qui, partout dans le monde, sont en train de se mettre. C'était quelque chose de violent, quoi. Et en tant que l'esprit prophétique qui est partout dans l'Église, on aurait pu dire, ben ça y est, on est arrivé. Et malgré tout ça, justement, parce qu'il y avait l'esprit prophétique, Dieu disait, voilà, je veux la prière. Donc la prière modèle Jésus, de Jésus, c'était une prière juive, il faut se rappeler ça. Hein. Jésus est juif. Et lorsqu'il est dit, Luc 4, il se rendit à Nazareth, il a été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. En fait, toute l'église primitive, elle est vraiment greffée sur la tradition de la prière juive. Et le Shema Israël, le Écoute Israël, le Deutéronome 6, etc. L'Éternel ton Dieu, l'Éternel le seul Seigneur, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça, c'est vraiment chaque jour, c'est récité. par les Juifs. C'est récité par cœur. Et regardez ça. Tu inculqueras à tes enfants, tu appelleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les étiras sur un poteau de ta maison, sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Regardez, on l'a déjà vu une fois, ça. Mais c'est impressionnant. Vous avez le commandement de l'adoration et immédiatement après, vous avez « Tu entreras dans le pays ». Et en fait, les trois sont liés. Adoration, transmission, prise du pays. Si vous enlevez un de ces trois domaines, on ne prend pas le pays que Dieu a pour nous. Voyez. Adoration, transmission à la génération d'après, prise du pays. Et donc l'adoration, la prière, elle vient avant la possession du pays. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu jureras par son nom. Voyez donc, ce premier des 10 commandements, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, écoute Israël, comment ils observent ce commandement? Eh bien, eux, les Juifs, ont traduit ce premier commandement, ça veut dire prier. Ça veut dire prier. C'est comme ça qu'ils ont traduit cela. La prière, c'est à la fois le moyen et la preuve de l'amour, voyez. Et cette tradition juive de la prière, c'est vraiment un service du cœur. Alors, dans le passage qu'on vient de lire, on reconnaît ensuite les traditions juives. C'est-à-dire que ces petites boîtes qu'ils ont là, en bois, remplies de cuir, entourées de cuir, avec des parchemins dedans, avec les versets bibliques dedans, c'est les téphilines là, qu'ils mettaient sur la main en souvenir hein, de cette parole de Dieu. C'est un signe pour eux. Et c'est impressionnant parce que nous, on pourrait dire, mais ça, c'est religieux. Mais attendez, Dieu a ordonné que ça soit un signe. Les symboles et les signes sont parfois très forts pour Dieu. Et ça aide pour nous. On a besoin parfois de symboles, de signes. La Sainte-Seine, c'est un signe. Pourquoi Dieu a besoin de choses physiques? Il choisit des choses physiques pour nous parler de choses spirituelles. Et là, nous avons, matin et soir, les Juifs pieux, eh bien, ils se revêtent de ces signes, ces boîtes avec les parchemins dedans. Et dès qu'un enfant sait parler au niveau de la tradition juive, il connaît les prières par cœur. Le Shema Israël, les petits-enfants le récitent. Ils le récitent. Vous voyez, les mezouzas aussi, les petits parchemins, les versets bibliques attachés aux portes d'entrée. Hein, il y en a certains qui ont ça. Alors, on peut sourire, mais ça veut dire, voilà, ma maison, c'est une maison pour la parole. Et aussi les tzitzit, les franges attachées aux coins des vêtements. Hein, ça rappelle le fait d'observer les commandements de Dieu, etc. Le châle de prière. Jésus a prié avec tout ça. Imaginez un peu. On pourrait dire, tiens, c'est impressionnant. Il a prié avec tout ça, Jésus. Et Jésus, cette vie de prière était enracinée dans la coutume juive. Et la prière était considérée comme aussi un travail, dans le sens que ils n'étaient pas couchés seulement ou assis, mais ils marchaient. Quand vous avez au mur des lamentations, vous avez les mouvements du corps qui font que, eh bien, pendant des heures, sans s'endormir, on peut prier. Et donc, ces techniques de la danse, ces techniques de la position debout, de la marche, des positions du corps font partie de la prière juive. Rappelons-nous Josué 1, donc je le relis parce que, en tant qu'Église, c'est un des textes phares pour nous. Fortifie-toi, prends courage. Remarquez qu'il n'est pas dit « Je te fortifie, mon petit troupeau. Tu es tellement désespéré, tu as tellement de bobos. Je vais te fortifier. » Non, non, Dieu dit « Fortifie-toi, à toi de te fortifier. Prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. » Impressionnant cette histoire. Le livre de la loi dans notre bouche. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit l'autre fois, souvent... Nous, peuple français, on aime un peu râler, quoi. Hein, c'est vrai, on aime râler, quoi. Ça nous fait du bien, ça soulage hein, de râler. Et Dieu dit, est-ce que la parole de Dieu, elle est dans ta bouche? Donc, la dire, la proclamer, donc la connaître, la connaître. Hein. Et puis, médite-la jour et nuit. Ça veut dire récite. Alors, le jour et nuit, on le verra. Alors, il y en a des gens qui disent, mais est-ce que c'est tout le temps? Mais c'est quand qu'on bosse, alors? Mais le jour et nuit, en particulier, ça peut vouloir dire, c'est que vous avez les heures de prière le matin, à midi et le soir. Donc, effectivement, le jour et la nuit. Ça ne voulait pas forcément dire tout le temps, mais il y avait un rythme dans la journée. Et puis, vous avez pour agir, donc médite-le, pour agir. Le but de la méditation, ce n'est pas méditer. Le but de la méditation, ce n'est pas d'être bien dans la présence de Dieu seulement. Le but de la méditation, c'est d'agir, de comprendre ce que Dieu a, et on va sur sa parole. Donc, tu auras du succès dans tes entreprises. Voyez ? Les entreprises, Caleb, c'est plein d'idées d'entreprises. Mais Dieu dit, médite ma parole et tu réussiras dans tes entreprises, dans le business, dans les affaires. Mais ça commence par Josué, je te rappelle. Voilà. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voyez, ça c'est beau. Alors, quand le temple de Jérusalem a été détruit, eh bien, les Juifs, il n'y avait plus de sacrifices. Et donc, les sacrifices, c'était quoi? Eh bien, c'était la prière. Et ils offraient un sacrifice de prière. Ça remplaçait l'expiation, la propitiation, etc. Et les chrétiens ont gardé cette notion de prière comme un sacrifice, Hébreux 13, 15, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc l'idée de sacrifice est très liée avec l'idée d'adoration. Et ça, on le voit avec Abraham. Qu'est-ce que tu vas faire, Abraham, avec ton fils là? Eh bien, je vais l'adorer. Ça veut dire je vais le sacrifier. Donc l'adoration est liée avec le sacrifice. Et Exode 30, verset 7-8, à Aaron, la maison des parfums, rappelez-vous, la maison, le tabernacle, il y avait ce parfum, et Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant, ça parle de la prière. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. La vision des maisons de prière, c'est une vision que l'Église a déjà reçue dans l'histoire, en particulier dans des temps qui étaient des temps de dévastation. Et je pense, après les invasions barbares, 4e, 5e siècle, la vision des maisons de prière est revenue. Avec les moines irlandais, l'abbaye de Murbach dans les Vosges, lieu d'adoration. On va implanter des lieux d'adoration. Et ça, c'était l'adoration, parfois 24 heures sur 24, effectivement. Et ce n'est pas étonnant qu'on ait basculé d'une civilisation barbare à une civilisation chrétienne. Quand Dieu prépare quelque chose de grand, il remet une vision pour la prière et la maison de prière. Voilà. Vous avez aussi Apocalypse 5, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et on voit cette image de ces prières qui montent, et il y a un moment, c'est ça qui est un peu étonnant. Nous, on aimerait que tout de suite, ça redescende, qu'il y ait tout de suite le fruit. Mais la Bible me dit, il y a une sorte de phénomène d'entassement. On se dit, mais pourquoi? Il entasse, il y a un niveau où ça revient comme un feu sur la terre. Et ça, c'est quelque chose qui nous appelle à persévérer. Voyez. Et David avait compris cette notion de parfum. Pourtant, David était de l'ancienne alliance, mais il avait compris que cet autel des parfums, ça parlait de la prière. Lorsqu'il dit ceci, psaume 141, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et mes mains tendues comme l'offrande du soir. » Voyez. Donc ça veut dire que les prières étaient journalières dans la tradition juive. Journalières. L'offrande du soir, la prière du soir, il y avait la prière du matin, prière du soir, à des heures fixées, programmées. Et dans ces heures programmées, il y a des choses absolues. Et moi, ce qui m'a touché dans ce que j'ai lu, pour moi, c'était une découverte, c'est que j'ai vu que Dieu, il agissait dans les choses programmées. Alors pour moi, charismatique, qui aime la liberté de l'esprit et tout ça, ça fait drôle. Dieu n'est pas contre la programmation. Alors bon, on commence à... Bien sûr, je souris un peu parce qu'on commence à le savoir, ça. Mais regardez dans 1 Roi 18, lorsque Élie confronte les prophètes de Baal, quand est-ce que le feu est descendu? Écoutez, versets 36 à 39, au moment de la présentation de l'offrande. Il s'agit de l'offrande du soir. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi !» etc. Et le feu est descendu à l'offrande du soir, au temps programmé de prière pour tout le peuple juif. Vous avez la même chose, donc on a parlé de Daniel qui priait 3 fois par jour. Il y a un théologien qui dit ceci, un théologien juif qui dit, il s'appelle Joachim Jeremias, nous pouvons conclure, selon toute probabilité, que Jésus n'a pas passé un jour de sa vie sans avoir prié 3 fois par jour, la prière matinale au lever du soleil, la prière de l'après-midi, lorsque l'offrande de l'après-midi était offerte au temple, et la prière du soir à la nuit tombée avant de se coucher. Donc, on voit dans les actes 2, le Saint-Esprit, dans les actes des apôtres, il est descendu quand ? Il est descendu au moment du temps de prière. Pareil. La Pentecôte, c'est vers la 3e heure, 9h du matin, temps de la prière du matin. Impressionnant. Donc, nous avons un Dieu qui est un Dieu de rythme, de saison. Les luminaires, il les a mis pour qu'on puisse repérer les saisons, les rendez-vous avec Dieu, on en a parlé, les fêtes bibliques, et les heures aussi, le rythme de la journée, Dieu l'a institué avec des temps particuliers. Alors, beaucoup ont compris, nous chrétiens, on a du mal, les musulmans, ils ont leur temps de prière. Quand vous allez dans tous les pays musulmans, c'est impressionnant, la journée est rythmée par la prière. Il y a une énergie spirituelle qui sort de ça. Imaginez si tout un peuple de Dieu est rythmé de la même façon, au minimum 3 fois par jour, avec chacun une prière de foi, de louange, de proclamation. Il y a des choses qui changeraient. Acte 1, ils persévéraient dans la prière. Luc 24, ils étaient continuellement dans le temple, louant, bénissant Dieu. Acte 2, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et puis, acte 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Décidément, tous les premiers chrétiens, ils respectaient les temps et les rythmes de prière. C'était ça qui est très très parlant. Donc, lorsque Paul dit « priez continuellement, priez sans cesse », eh bien, ce n'est pas prier de façon ininterrompue du matin au soir, mais ça veut dire à observation d'heure régulière, etc. C'est pour ça ce que nous faisons ici, bon, les 2 jours qu'on a passés, mais aussi les matinées. Donc, je sais que Rusty va partir, vous partez le 13 janvier, 15 janvier. Donc voilà, est-ce que la semaine qui est jusque-là, il y a encore le rythme qui continue de maison de prière ou pas tout à fait ? Non, parce que tu t'absentes ? Ouais. D'accord. Donc, ce qu'il faudra, c'est pouvoir, les créneaux de prière qui continuent, pouvoir peut-être les informer quand ils existent. Jusqu'à présent, il y avait toutes les matinées. Donc maintenant, s'il y a des matinées qui sautent, qu'on puisse simplement le savoir. Et à partir de mi-janvier, à peu près même avant, il y a vraiment le planning au niveau de ces créneaux de prière qui va être fait. Et comme on a l'habitude de le faire, on va s'arranger pour qu'il y ait chaque fois au moins une personne, un leader au niveau louange ou tout ça, et que les gens puissent venir. Et si possible, ça serait bien s'inscrire également, qu'on sache un peu à l'avance qui c'est qui vient, qui c'est qui vient pas. De façon à ce qu'on n'arrête pas le rythme qui a été pris. Voilà, la prière quotidienne. Et vous savez, lorsqu'on voit cet immense travail, cette immense vision de la prière qui a façonné notre civilisation, on se dit aujourd'hui, si Dieu nous pousse à cela, c'est qu'il a vraiment des grands projets, de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Donc c'est bien la prière individuelle, c'est bien la prière collective. Et je crois que cette vision de la maison de prière est une priorité pour les temps qui sont devant nous et pour voir les choses qui débloquent que jamais on pourrait faire débloquer avec nos propres forces, tout simplement. Donc nous sommes joyeusement acculés à aimer la présence de Dieu, à y rester et gardons ces images qu'on a vues tout à l'heure, qui sont ces images de ces dessins de repos dans le Seigneur, de cet arbre florissant, de cette montagne de gloire, de ces soleils de justice qui viennent envahir tout, de ce dessin là-bas où on voit la rue de la République, envahi par un torrent d'eau. Ça a failli arriver la semaine dernière, mais là, c'est un torrent de grâce avec les anges qui viennent. Et continuons à prier. Je crois que ce que nous avons vécu pendant cette période de Noël, où toutes les églises ensemble, catholiques, réformées, protestantes, évangéliques, ont travaillé pour des actions communes, c'est un début de quelque chose. Donc il ne faut pas lâcher le morceau, il faut continuer, et tous ensemble. Alors vraiment, c'est ma prière. Et moi, je m'exhorte aussi avec vous, parce que c'est vrai qu'on est, c'est parfois plus facile quand on est à plusieurs qu'être chez soi tout seul 3 heures. C'est évident. Et il y a quelque chose de très fort lorsqu'on est réunis ensemble et on veut continuer ce rythme. Alors simplement, on veut prier. Et Seigneur, merci pour cette maison de prière. Et nous savons que cette maison ici, ce n'est pas seulement une maison avec des projets, avec du travail. Bien sûr, il y en a, mais c'est d'abord une maison de prière. Et Seigneur, nous croyons que tu veux irriguer nos vies de ta présence, de ton soleil de justice, de ta gloire. Nous croyons que tu as des conversations d'amis avec chacun de nous qui sont prévues en 2013, Seigneur. Et nous voulons te dire, nous voici, Seigneur. Nous avons tellement besoin d'apprendre. Enseigne-nous, Seigneur. Mais nous voulons avancer dans ce que tu nous montres, pas à pas. Et nous te bénissons, Seigneur. Moi, je te bénis particulièrement pour les temps extraordinaires qu'on a eus ensemble. Donne-nous ces rendez-vous divins encore cette année, Seigneur. Ensemence nos vies et que nos vies puissent ruisseler de la bénédiction, de l'inspiration de Dieu, de l'amour de Dieu, que les fleuves puissent commencer à se déverser, non pas seulement en nous, mais au travers de nous, comme ces dessins ont montré aussi, Seigneur. Merci Jésus. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Merci Jésus, bénis ton Église, bénis chacun ici, relève ceux qui sont fatigués, relève ceux qui sont dans des questionnements, dans l'angoisse, dans des questionnements par rapport au travail, à l'avenir. Et enlève nos craintes, Seigneur, et merci pour les projets de bonheur cette année encore en 2013, encore plus qu'avant. Dans le nom de Jésus, Amen.